Alors bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver, de voir aussi nos quelques étudiants habituels qui ont compris que des collectionneurs, c'était une chance à ne pas manquer. Moi, je suis vraiment très heureux de recevoir Isabelle et Jean-Conrad Lemaître, parce qu'on a peu de fois la chance d'avoir des collectionneurs aussi engagés dans un champ aussi spécifique et qui dessinent depuis de nombreuses années une sorte de ligne comme ça de passion sensible à côté des artistes et avec eux. Et moi, j'ai découvert leur collection en 2006. J'étais étudiant au magasin à Grenoble pour être commissaire d'exposition et on nous avait très lourdement et judicieusement invité et obligé à aller voir une exposition à la Maison Rouge à Paris, alors qui est un lieu que je fréquentais et qui vient de fermer l'an passé et qui n'a produit que des expositions magnifiques. Mais à la Maison Rouge, nous disait-on, il y avait une exposition de vidéos. Et quand vous êtes commissaire d'exposition, vous savez à quel point c'est très compliqué d'imaginer, de montrer une exposition uniquement faite de vidéos, pour des raisons techniques, pour des raisons aussi de l'ordre de la circulation et de l'appréhension de la plupart des œuvres. Et en tant que spectateur, on le ressent souvent. Et cette collection avait la particularité, c'est que c'était une collection qui était une collection travaillée, une exposition travaillée autour d'une collection particulière, qui était la collection de personnes que je ne connaissais pas à l'époque, qui sont devant vous ce soir. Et donc nous sommes allés là-bas et ça a été un véritable choc, c'est-à-dire que la vidéo était quelque chose que ma génération connaissait, puisqu'il y avait Douglas Gordon, tous ces gens-là qui étaient vus dans les grands musées, et donc ça devenait un peu à la mode, mais on connaissait ça quand même un peu en surface. Et là on pénétrait dans un lieu dans lequel on allait aller au cœur de ce qu'était la vidéo, mais du moment qu'on vivait. C'était ça qui était assez fort dans cette exposition, c'est que c'était ici et maintenant, et des vidéastes d'ici et maintenant qui nous parlaient du monde dans lequel on vivait. D'ailleurs, le titre, je crois, c'était...
Une vision du monde.
Une vision du monde. Alors, pour le coup, c'était vraiment ça à quoi on avait accès. Et moi, je me souviens, alors, parmi tous les artistes, enfin, tous étaient somptueux. Il y en a quelques-uns qu'on retrouve dans l'exposition aujourd'hui, mais de la vidéo d'Isaac Julien, Territories, qui pour moi a été un choc sidérant parce que je ne savais pas qu'on pouvait faire de la vidéo comme ça. Et c'était en plus une vidéo de jeunesse, parce que je crois que c'est la vidéo de son diplôme ou juste après son diplôme. Ouais, à Londres, à la St. Martin School. Et il y a une maîtrise et une force et une radicalité et une intelligence. Enfin, la vidéo est valable encore aujourd'hui. Le propos de la vidéo devrait être encore montré aujourd'hui parce que ça nous raconte exactement encore ici et maintenant. Et du coup... on est ressorti de là, nous, avec l'idée que montrer des vidéos était possible et que peut-être que c'était un médium qui nous permettait, plus que d'autres, de nous raconter collectivement aujourd'hui. En dehors du fait que la vidéo est un médium qui rentre dans nos vies à absolument tous les niveaux, depuis la télévision, et c'est la première des choses, jusqu'à des téléphones portables, jusqu'à la vidéosurveillance dans un musée, jusqu'au film, jusqu'au cinéma, jusqu'au documentaire, jusqu'à Netflix, c'est le médium de notre temps et c'est ce qui peut-être nous raconte le plus. Et c'était génial de voir ces artistes-là se réapproprier ces manières de faire, les détourner, les déconstruire pour proposer un discours qui n'était peut-être pas celui des grands médias, et sûrement pas, et beaucoup plus fin, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus complexe, parce que votre collection de vidéos est très complexe. Je crois que c'est un engagement que de vivre avec les œuvres que vous avez et de les choisir. Et du coup, ça a ouvert des champs. Alors, c'est étonnant parce qu'aujourd'hui, dans les foires, à part Loop, dont on parlera peut-être, mais on voit de moins en moins de vidéos parce que le marché a besoin de choses faciles à acheter et prêtes à mettre sur les murs. Pourquoi pas, c'est pas très important. Mais en tout cas, cette exposition aujourd'hui nous a permis de nous reconnecter à ces deux grands collectionneurs. Et c'était vraiment une envie très forte de pouvoir les inviter ce soir pour qu'ils vous racontent ce que c'est que de créer une collection avec une ligne extrêmement particulière et pourtant très ouverte sur un plan intellectuel, et ce que c'est que créer une collection de vidéos. Donc je vais leur laisser la parole et on va, je pense, découvrir avec eux de quoi il s'agit quand on parle de collection de vidéos.
Merci Stéphane. Ça marche mon truc ? Oui, ça va ? Ouais. Merci Stéphane. Et merci à la collection Lambert de nous avoir invités. Merci à Alain Lombard. Je vais faire aussi un petit remerciement à Michel Poitevin, qui est donc le créateur de cette série d'expositions dont vous voyez un bel exemple ici, et qui a inventé cette expo tous les 3 ans dans un lieu en France. Voilà. Alors, nous, maintenant, il dit grand collectionneur, Stéphane, c'est gentil, seulement 1m66, hein. Mais comment est-ce qu'on arrive, peut-être vous êtes-vous demandé, comment est-ce qu'on arrive à collectionner la vidéo? C'est peut-être la question que vous vous posez. Bon, alors, on va revenir un tout petit peu en arrière. On est collectionneur depuis plus de 40 ans et on a commencé pas du tout par la vidéo, bien évidemment, mais par de la gravure, ce qui est quand même amusant d'être collectionneur de gravure quand on arrive à être collectionneur de vidéo 40 ans après, parce que c'est aussi de la gravure jusqu'à ce que... C'est plus des DVD maintenant, mais enfin, c'est quand même la même chose et je dirais une collection assez intellectuelle puisque... Elle est dans une boîte, ou dans quelques boîtes, ou dans un placard en tout cas, ce qui était d'ailleurs la couverture de du catalogue de la Maison Rouge, le placard à chemises où on poussait les chemises pour mettre les vidéos. Voilà. Donc nous avons commencé par la gravure, ensuite nous avons acheté des choses un peu plus classiques que ce que nous achetons actuellement, et mon mari, Jean-Conrad Lemaître, est tombé dans le pot, je dirais, de l'art contemporain à Madrid. On a vécu 32 ans à l'étranger. On est arrivé à Madrid après New York et Londres en 82, donc avant la Movida. Là, il y avait des tas de choses qui se passaient, très peu de collectionneurs. Donc Jean-Conrad a commencé à acheter. La première fois qu'il a acheté un tableau, je lui ai un peu dit, enlève cette tache de mon mur. Hein, comme c'est un bon mari, il l'a rendu à la galerie, mais trois mois plus tard, il y avait la même chose en 3 fois plus grand. Et là, j'ai commencé à lui faire confiance, et j'ai eu raison, parce que cet homme-là a un instinct extraordinaire qui nous mène alors donc à pas mal de choses dans l'art contemporain, d'abord peinture, un peu de sculpture, et puis beaucoup dans les années 90 de la photo, à partir du moment où la photo a été acceptée comme pas seulement un médium, mais dans l'art contemporain. Voilà. Et de la photo, évidemment l'image fixe, on est passé à l'image en mouvement. Donc il faut en fait plutôt demander aux artistes, c'est à eux qu'il faut demander pourquoi la vidéo, et pas à nous, parce que nous on n'a fait que suivre les artistes. À partir du moment où la première étant Gillian Waring à Londres, où on a habité 20 ans, est passé de ces photos qu'on connaissait par la galerie à la première qu'on avait vue Dancing in Peckham, on s'est dit pourquoi. Et Jean Conrad, encore une fois, a eu cette espèce d'instinct de ce dont Stéphane parlait tout à l'heure, de ce qui allait être le futur. Ça, c'était il y a 25 ans. Donc je dirais que dans cette sorte de collection, et qu'à l'époque, il n'y avait pas de collectionneurs de vidéos, sauf les collections historiques, et qu'il a eu cette espèce de vision future que ce serait le siècle suivant, parce qu'on verrait des images en mouvement partout, y compris pour la publicité dans les aéroports, enfin, comme tu as cité à l'instant. Voilà. Donc on a commencé en gros à Londres. La première fois, c'était à l'expo Live Life à Paris, au musée d'art contemporain, où on a vu donc une vidéo de Gillian Waring, où je me souviens encore de Jean-Conrad rentrant et sortant de cette petite cabine où on montrait la vidéo. Le gardien devait penser qu'il était fou parce qu'il rentrait, il éclatait de rire, il ressortait, enfin voilà. Donc c'est la première vidéo qui était d'ailleurs montrée à la Maison Rouge, et depuis il y en a eu pas mal. Depuis la Maison Rouge, il y a eu, et merci à la Maison Rouge qui a été d'une générosité formidable pour cette expo qui était magnifique et qui pour nous a été un grand moment, il y a eu 19 expos en France et à l'étranger. Donc ça veut dire qu'on travaille beaucoup, que on suit nos artistes, on est ravis quand ils sont montrés dans les expos. Vous allez voir après des images où il y a quelques expos qui sont indiquées là. C'est Alain Renaudot qui nous a fait ces visuels pour placer un peu la collection, parce qu'on n'a pas de site en fait, donc quand on nous demande des renseignements, on envoie ça. La dernière étant au Japon, elle n'est pas marquée, l'avant-dernière en Corée, en Chine. Là vous voyez une vidéo qui est en fait dans l'exposition. Donc c'est Enrique Ramirez, et je vais vous raconter rapidement l'histoire parce qu'elle est jolie. J'étais au Frénois dans le jury, et entre un charmant jeune homme qui a vraiment fait son chemin depuis 10-11 ans, puisque la vidéo qu'on va vous montrer tout de suite était à la Biennale de Venise il y a 2 ans. Et ça, c'est sa première vidéo brise que j'ai demandé à Pascal Prenier au Frénois de me retenir la première édition au moment où il nous la présentait pour le jury. Voilà. Donc ça, c'est notre vie, si vous voulez. Je pense que la collection ne se définit pas par le nombre de vidéos. Elle se définit par le fait que nous avons fait ça tous les deux, lui avec son instinct formidable et moi avec un certain bagou et des dons pour la com. Voilà, non, je rigole parce qu'on a vraiment vécu ça ensemble depuis 25 ans et plus. Donc vous allez voir aussi dans l'exposition, si vous ne l'avez pas déjà vu, une vidéo d'Evangelia Cragnotti qu'on a aussi découvert au Frénois et que les amis qui l'ont présenté l'ont acheté après nous parce qu'ils nous font confiance. Donc ça, c'est notre vie très souvent, et c'est comme ça que se définit la collection. Très souvent, eh ben, on achète quand ils sont tout jeunes, ce qui nous a permis de faire cette collection.
Avant, parce que vous vouliez qu'on voit la vidéo de Ramirez, peut-être, oui, non ? Avant de la voir, du coup, il y a moi quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est que cette collection, et j'ai su que assez tard que vous aviez vécu autant à l'étranger. Et c'est vraiment, on a vraiment l'impression, et vous disiez tout à l'heure que vous avez des artistes de tous les continents maintenant, on a vraiment l'impression que cette collection est une collection de voyages et de rencontres humaines. C'est-à-dire que c'est vraiment ça. En plus des œuvres et en plus des objets qu'on voit, on sent que derrière, il y a un voyage intellectuel, qu'il y a un voyage physique, que les territoires, vous les avez éprouvés, certainement, et que c'est les gens avec qui vous marchez, ces artistes-là, fatalement, c'est des gens que vous avez rencontrés et qui font partie de votre quotidien.
Mais c'est une... ce qui se passe, c'est qu'on a vécu 32 ans à l'étranger. Et pour nous, c'était... les artistes, c'était une nouvelle famille. Parce qu'on n'avait pas été à l'école avec les gens en Angleterre, en Amérique, à droite et à gauche. Et finalement, il y avait les artistes. Et les artistes étaient un peu comme nous. Ils étaient un peu marginalisés, quoi. Et donc, on s'est réunis avec eux. On a découvert avec eux... Aussi, on a découvert avec eux toutes sortes d'aspects de leur culture et tout ça qui nous intéressaient. C'est pour ça, en vivant à l'étranger, on voulait comprendre les autres. Et je reviens sur ce que vous avez dit tout à l'heure, enfin ce que Isabelle a dit tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a un côté émotionnel dans notre quête et dans nos choix. C'est émotionnel. Et on voit une vidéo et on voit une œuvre et on a une émotion. Et cette émotion, c'est ça qui fait qu'on s'accroche et on achète. Ce qui se passe, c'est que dans certains cas, et ça nous est arrivé, on ne comprend pas très bien ce qu'il y a, on ne comprend pas très bien l'œuvre, mais il y a quelque chose qui vous dit, il y a quelque chose, quoi. Et donc, par exemple, la vidéo de Karine Sitter, qui est une vidéo qui est tirée des reality shows, etc., qui est vachement bien, eh bien, j'ai pas compris du tout ce qu'elle... J'ai rien compris à cette vidéo, et d'ailleurs, j'étais pas le seul, parce que la collection cadiste, ils avaient la même impression, et ils comprenaient rien non plus. Et c'est seulement au bout de quelques temps que j'ai dit « Ah, ça y est, je crois que j'ai compris ». Et là, j'ai commencé à aimer. Et ça a été la même chose avec l'artiste qui va venir ici.
Le japonais, oui.
Yuki Okumura. Yuki Okumura, j'étais à Rotterdam, j'étais dans la partie de la foire de Rotterdam qui montrait des vidéos. J'ai vu cette vidéo, je me suis dit, c'est incroyable, c'est une conférence en japonais. C'est pas possible de faire une... Enfin, c'est très bien, c'est très gentil, mais c'est pas intéressant, quoi. Et finalement, j'ai regardé pas mal de fois, et il y avait un petit gars qui était à côté. En général, ce sont les galeristes. J'ai été le voir, je lui ai dit, ça y est, je crois que j'ai compris. Et en fait, il m'a dit, oui, vous avez raison, c'était ça. Et le type, je lui ai dit, mais alors, vous êtes le galeriste ? Il m'a dit, non, je suis l'artiste. Et après, il m'a dit, bon, ben voilà, venez avec moi, je vous emmène à ma galerie. Et j'ai été voir la galerie, et puis j'ai dit, d'accord, je prends. Et en fait, c'était une vidéo très intéressante. C'était en fait une conférence qui était donnée au Japon sur un artiste sud-africain qui parlait absolument pas le japonais. Il avait une traductrice qui était très intéressante. C'est elle, elle avait une présence. Et en plus, elle, moi, je pense que c'était une traductrice, c'était en même temps un médium. Elle avait tout. Elle était rentrée dans l'âme de l'artiste. Et elle parlait comme l'artiste, et elle disait tout en jeu. J'étais sidérant, moi je croyais que c'était l'artiste d'ailleurs. Et à la fin de la conférence, tout le monde applaudit, etc. Et l'artiste, le Sud-Africain, d'ailleurs qu'on reconnaîtra, il se lève, et puis c'est fini. C'est extraordinaire, hein, vraiment. Alors bon, il y a effectivement des œuvres, on a un feeling, on se dit que ça doit être intéressant, c'est peut-être pas une espèce de révélation, et puis on comprend pas, on sait pas, etc. Et puis à un moment donné, ça marche, c'est formidable, hein. Mais c'est plus une intuition, une révélation, je sais pas, quelque chose, ça vient comme ça.
Mais je parlais avec Yvon Lambert de l'art conceptuel une fois et de Sol Lewitt, et je me demandais pourquoi dans les années 60 il s'était passionné pour ça alors que personne regardait ça. Et je me suis dit, tiens, il aime l'art classique, alors Lewitt, il y avait quelque chose avec les fresques, peut-être la Renaissance, que maintenant on sait. Et je lui dis, est-ce que c'est pour ça que vous aimez ? Et il m'a dit, ah, non, il me dit ça, on l'a découvert après. Il me dit, j'ai rien compris. Simplement, ça m'a bouleversé et j'ai senti qu'il fallait que je suive cette histoire comme une histoire d'amour. Il fallait que je sois là parce que c'était là que tout allait exploser en moi et chez eux. Et il fallait qu'on le vive ensemble et il me dit, c'était instinctif. Et puis... Et du coup, j'ai beaucoup de collectionneurs qui ont des collections qui sont très précises et très engagées. Il me semble que c'est cette chose-là qui marche et qui fait que les collections sont belles a priori. Ouais.
Ah oui, j'oubliais. Vous avez vu une vidéo de Mark Wallinger. Mark Wallinger qui est un artiste anglais formidable. Et puis, sa vidéo, c'est vraiment une vidéo. Il y a très peu de moyens. Il y a du ralenti, de la musique, puis c'est tout. C'est formidable de faire une vidéo comme ça. Ça, c'est de la vraie vidéo. Et en fait, la musique, c'est le Miserere d'Allegri qui a été retravaillé par Mozart. Et franchement, cette vidéo, on voit l'arrivée, ça s'appelle Threshold to the Kingdom, arrivée...
Au seuil du royaume.
Au royaume. Et en fait, c'est l'arrivée en Angleterre pour les immigrants. Quoi. Enfin, mais c'est vraiment une vidéo extraordinaire. Et alors, je vais vous dire une chose qui est bien amusée, Mark Wallinger, c'est qu'un jour, il y a un type de... Je crois que c'est d'une chaîne américaine qui est venu à la maison et il m'a dit, je voudrais bien vous interviewer sur une vidéo. Et en fait, ça ne marchait pas. Et ça marchait pas. Je veux dire, il a pas pu filmer ou je sais pas quoi. Et finalement, je lui ai expliqué toute la vidéo à la radio. Faut le faire, non? Et ben, ça a très bien marché. Et Mark Wallinger était il était très content. Il trouvait très très original.
Vous ne l'avez prêté deux fois celle-là hein, à la collection. On vous l'a emprunté deux fois. Et nous, on l'aimait parce qu'il y a quelque chose. C'est dur. Hein. Enfin, c'est somptueux, le Allegri est merveilleux, mais on a cette espèce de paradis aseptisé postmoderne, et on a l'impression que ces gens arrivent au paradis avec leurs valises et avec tout ce qui fait notre société. Et alors, et en plus, moi, elle résonnait beaucoup après les attentats du 11 septembre et tout ça. C'était des gens comme nous qu'on voyait arriver au paradis, et on a l'habitude d'attendre les gens à l'aéroport et tout ça. Elle est vraiment parfaite. Enfin,
Et c'est bien ce qu'on aime dans la collection. C'est vraiment une vidéo, comme disait Jean Courat, qui est faite avec très peu de moyens. Il s'est mis devant une porte, dans un aéroport, il a mis de la musique et il a ralenti. C'est vraiment la vidéo par rapport au cinéma. C'est-à-dire, on peut la prendre à n'importe quel moment, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de... C'est vraiment... c'est un geste, la vidéo. C'est, je ne sais plus quel... Quel vidéaste américain m'avait dit ça ? La vidéo, c'est ce qu'il y a après ma main, c'est un geste. Pour nous, la vidéo, l'art vidéo, c'est pas du cinéma, c'est pas de la mise en scène. Maintenant, le problème, d'ailleurs, il y a moins de vidéos qui nous plaît maintenant. Il y a beaucoup de jeunes qui font des vidéos qui sont comme des bouts de film, avec une mise en scène, des acteurs, ça coûte une fortune. C'est pour ça que le prix de la vidéo a monté. Nous, ce qu'on aime, c'était ces petites choses, ces gestes justement qui sont faits. et qui donne ce qu'on appelle de l'art vidéo, et on y croit.
Et à la fois, en quelques minutes, on a autant que dans un récit filmique d'une heure trente, je trouve. C'est pour ça que ça marche aussi, c'est qu'on est embarqué dans une histoire, et comme si on était embarqué dans un film pendant plus d'une heure trente.
Et là, on va vous montrer donc une vidéo de Enrique Ramirez, celui de Brise que j'ai montré tout à l'heure, qui est une vidéo donc, qui avait été montrée à la Biennale de Venise, qui est très poétique. On va vous montrer la première partie parce qu'elle est un petit peu longue. Vous allez voir, c'est une vision magnifique aussi. J'espère que vous apprécierez.
Ça se passe en Bolivie.
Hein. Oui, ça se passe en Bolivie, où il y a une étendue d'eau qui monte seulement pendant 15 jours de l'année, avec du sel, et il va vous faire un voyage. On vous laisse en profiter. Voilà, les âmes mortes de Gogol, le passage du Styx, les rites de passage. Vous avez vu mentionner au début le Frénois, donc je pourrais peut-être vous dire un mot sur le Frénois.
Tout le monde ne sait pas ce que c'est le Frénois. Hein.
Ah oui, justement, je vais vous expliquer. Alors, le Frénois, c'est une école de médias à Tourcoing, donc Frénois Studio National, et nous avons créé un prix pour le Frénois, qui va avoir 14 ans cette année, qui s'appelle le Prix Studio Collector, et que nous remettons tous les ans depuis 14 ans, en choisissant, c'est pas nous qui le remettons, on l'a fait la première année, et on choisit tous les ans un collectionneur ou un couple de collectionneurs qui accepte de choisir une œuvre parmi l'expo Panorama, qui a lieu chaque année, de remettre un chèque de 6000 euros cette année. Et cette année, alors pour la première fois, nous le délocalisons et nous allons le remettre au moment de la foire de Loop à Barcelone, ce qui me permet de vous dire quelques mots sur Loop aussi. Donc c'est une foire pour laquelle on collabore depuis le début, elle en est à sa 17e année. Jean Corrade est maintenant président du comité, ouais. Et il... de façon bénévole et amicale pour les gens qui l'ont créé et organisé. Il choisit, il fait partie de certaines personnes, surtout lui d'ailleurs qui travaille. Et il choisit les vidéos des galeries proposées pour monter le niveau de la foire et que les vidéos soient vraiment de très bon niveau. C'est une foire à Barcelone en novembre qui marche très bien et qui est pour la vidéo. Voilà.
L'avantage de Loop, c'est que c'est une foire qui est conçue pour la vidéo. C'est-à-dire, si vous voulez, la vidéo ne souffre pas des interférences de son, de lumière, etc. Et là, et donc, elle se passe dans un hôtel et chaque galerie a une chambre d'hôtel. Et donc, la vidéo, c'est comme si vous étiez dans votre salon et vous regardiez la télé. La vidéo, elle a une intimité, elle est dans une chambre couchée. Et c'est vraiment très original comme concept. Hein. Et ça marche très bien.
Et c'est une vidéo par galerie, hein, c'est ça aussi.
Voilà. Oui, une vidéo par galerie.
Et je reviens au Frénois. Donc, dans notre collection, nous avons beaucoup d'artistes du Frénois, parce que Jean Corrade a été le premier collectionneur à aller au Frénois il y a plus de 20 ans. Donc, on a d'ailleurs une de nos expositions en Chine, parce qu'on a eu 5 expos en Chine. Une était avec le Frénois, ou moitié-moitié de nos vidéos et de vidéos du Frénois. Pour une fois, en général, on ne fait pas ça, mais là, c'était vraiment... un très beau projet, il y avait genre 22 vidéos et 11 de chaque. On a eu, vous avez vu, une expo en Corée, on a eu, les dernières étaient à Tel Aviv, ensuite au Japon. Enfin, on aime beaucoup, comme je disais tout à l'heure, montrer les vidéos. On en a eu 3 en Espagne aussi, on en a eu en France. On parcourt le monde avec, pour défendre la vidéo. Voilà, on est des collectionneurs actifs. Nous faisons partie aussi de comités de musées de commissions d'achat, de FRAC, de jury. On a fait beaucoup de jury. Moi, j'ai fait partie de la commission d'achat de la ville de Paris. Enfin, on est tout à fait ouvert et d'accord pour faire ce genre de choses pour défendre la vidéo.
Oui. Moi, il me semble du coup que ça dit beaucoup de choses sur cette collection. Pour vous, tout est normal, mais collectionner des œuvres, c'est peut-être aussi avoir envie de vivre avec ces œuvres, d'en profiter, d'en jouir. Fatalement, quand il est question de vidéo, on se pose la question de comment on vit avec la vidéo. Ah. Alors moi, je comprends du coup que vous ayez fait au moins 19 expositions de votre collection, etc. C'est qu'il faut trouver des prétextes pour les voir en permanence, peut-être, et pour les montrer.
En fait, on ne les voit pas en permanence. En fait, c'est un peu comme quand on avait des gravures. Et en fait, quand on avait des gens qui venaient à la maison, on ouvrait notre classeur de gravures et puis on montrait les dernières gravures qu'on avait acquises pour partager. C'est, en fait, c'est un partage. Et les vidéos, c'est la même chose. En fait, on a des gens, même des groupes d'ailleurs, on a eu les groupes d'associations, d'amis de musées, tout ça, qui sont venus à la maison et en fait, on leur fait une petite projection de vidéo, mais c'est du partage, en fait. C'est du partage de notre passion, de notre joie, quoi. Et en fait, il y avait une journaliste qui a écrit dans Les Échos, je crois, elle avait écrit que c'était comme des copains qui vont regarder un match de foot à la télé. Et en fait, c'est vrai que c'est convivial et c'est un partage. C'est un partage, et ça, c'est vraiment formidable.
Oui, c'est la soirée de diaporama en famille, où on montre ses souvenirs de voyage, et c'est un peu ça, finalement.
Mais ce qui se passe, c'est que nos vidéos, on ne les regarde pas tout le temps. On le regarde seulement avec d'autres personnes. C'est seulement un partage. Voilà, c'est comme ça.
Il n'y a pas de dispositif chez vous avec des endroits et des vidéos qui tournent en permanence?
Non, ça c'est les Américains font ça, c'est les Kremlich qui font ça. Ils ont des écrans avec des vidéos qui sont là en permanence, c'est un peu comme des tableaux vivants. Ouais. Moi, je n'aime pas tellement cette idée. Je pense en plus que si on voit une vidéo une fois de temps en temps avec des gens, c'est comme retrouver quelqu'un qu'on aime, mais au bout d'un certain temps. Mmh. Et je pense qu'il y a cette espèce de manque et d'attente et de joie et de plaisir après autant de temps.
Et d'envie de renouveler le regard aussi.
Oui, moi je trouve, c'est vachement bien.
Mais il y a aussi, dans les 20 expositions dont on parlait, qu'on a citées, le temps qu'on passe pour montrer au commissaire. Parce qu'on n'a jamais demandé les expos, on nous propose, donc les musées ou les espaces. Et on demande un commissaire, parce que nous, on ne peut pas faire notre propre commissariat. Forcément, on les aime tous. C'est comme des bébés, on les a choisis, on les aime tous. Bon, donc le commissaire, il passe 2-3 jours à la maison, forcément, pour voir, on fait un petit choix avant, pour voir à peu près ce qu'il aime. On ne donne pas notre liste, mais voilà, on fait des suggestions. Et là, on passe 3 jours à regarder les vidéos. Donc quand on dit qu'on ne les voit pas souvent, c'est vrai qu'on ne les voit pas souvent, parce que ce n'est pas tous les jours. Mais quand on